L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Bonjour Lionel.
Ouais, bonjour Maëline.
Alors Lionel, cette fois-ci, tu as été sur le terrain pour cette 11e chronique L'onde du bois.
Et oui, et c'est une première parce que, et je pense qu'elle va être amenée à se renouveler, cette rencontre avec un professionnel du bois, un artisan, un artiste, où, et du coup, qui cela participera à la réalisation de futures chroniques, hein, le fait d'aller rencontrer des personnes sur le terrain qui travaillent en forêt et ou avec le bois.
Et puis donc, on n'en manque pas sur notre territoire.
Voilà, voilà, tout à fait. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant d'aller rencontrer directement. Et bien là, il s'agit de Mathieu Mayou, qui est luthier à La Serre sur la commune de Saint-Angèle.
Alors voilà, on est dans l'atelier de lutherie de Mathieu Mayou. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Alors on arrive dans cette cabane où il fait bon, hein, on sent déjà même l'odeur du bois, l'odeur des essences transformées, sciées, rabotées. On a au mur plein de belles images de violons, des posters de violons d'Andrea Amati. On a des outils, voilà, des équerres, des scies, des gouges, des rabots. C'est magnifique. C'est un musée, déjà un musée de la lutherie, et puis des instruments là qui sont accrochés au mur, qui attendent d'être de passer dans les mains de Mathieu. Et puis bah on a le petit poêle là-bas qui continue à rougeoyer tranquillement, qui chauffe la pièce. Le dehors, une belle tempête, on a du vent aujourd'hui, on vit dans les éléments naturels ici, dans cette cabane atelier, et puis en même temps dans les éléments du bois et de la musique. On est à La Serre,
oui,
à côté
ça,
de...
Sur la commune de Saint-Angèle.
Voilà, sur la commune de Saint-Angèle, donc écoute, merci pour ton accueil.
Avec plaisir, bienvenue ici.
Donc on va parler ensemble de ton métier d'art, qui consiste à fabriquer des instruments, du quatuor, des instruments à cordes.
Voilà, c'est ça. Alors moi je suis donc luthier et ça se divise ici en deux parties. D'un côté je fais la réparation, l'entretien, et d'un autre côté la fabrication. Donc moi je suis plus spécialisé dans la fabrication des instruments du quatuor et surtout... la contrebasse.
C'est quoi les instruments du quatuor ?
Alors les instruments du quatuor, c'est violon, alto, violoncelle, plus la contrebasse qui est un peu à part, mais c'est la même construction, le même type d'instrument.
Toi, tu œuvres ici depuis combein de temps à La Serre, hein, et sur ta carrière, enfin comment ça s'est passé, ta progression dans ce milieu-là, tes découvertes
Alors j'ai je voulais être luthier depuis voilà l'âge de 12 ans, hein, dès que j'ai découvert ce métier qui mélange de façon optimale la musique et le travail du bois. Et donc après, de fil en aiguille, j'ai fait ma formation à l'école de lutherie de Mirecourt dans les Vosges. Puis après, de fil en aiguille, je me suis installé à mon compte en 2012. Je fais surtout de la fabrication de contrebasses, et puis depuis peu, je fais l'entretien des guitares, ce qui peut être fretage, etc. Et puis aussi, bien sûr, l'entretien des violons, alto, violoncelle, contrebasse.
Donc tu maîtrises tout, là. Le métier de luthier, en fait, c'est tu achètes le bois. Tu réalises la transformation totale du bois, enfin du bois qui a déjà été scié en faisant attention au sens du bois, au sens des fibres.
De l'arbre au musicien, quoi, un peu en gros, on va dire ça. Ouais. Donc ça consiste, voilà, en façonnant, à façonner les planches de bois pour arriver à l'instrument d'abord en blanc, on dit en blanc, donc qui n'est pas verni, et ensuite vient le processus de vernissage.
Combien de temps ?
On peut dire qu'il faut entre 4 et 6 mois de travail pour fabriquer une contrebasse.
Effectivement, c'est tout un processus de gestation.
Oui, c'est ça. Surtout que moi, je travaille... Il y a très peu de choses que je ne fais pas moi-même déjà. Et il y a très peu de choses qui sont faites à la machine. Quasiment pas, en fait. Je fais quasiment tout à la main. Donc c'est plus long. Mais voilà, c'est un choix aussi de maîtriser un peu tous les aspects, toutes les étapes de la fabrication. De la planche de bois jusqu'au vernissage. Voilà, y a quelques accessoires que je fabrique pas, comme les mécaniques, les pics et les cordes, bien sûr. Ouais. Mais sinon, voilà, je fais à peu près tout, quoi.
Alors justement, au niveau des approvisionnements, des fournitures, comment ça se passe? Le bois, d'où provient-il? Est-ce qu'il y a du bois, par exemple, même qui proviendrait du plateau de mille vaches, qui pourrait être utilisable dans la fabrication d'un instrument de musique?
Alors, le bois vient pas du plateau de mille vaches. Ça va être compliqué d'avoir des épicéas qui poussent à une altitude donc relativement basse par rapport à ce qu'on cherche, nous, aux épicéas qu'on a pour la lutherie. Si je devais décrire le bois de lutherie optimal, alors premièrement, pour l'épicéa, ça va être un épicéa qui est léger, donc une faible densité, et un accroissement, alors ça c'est assez paradoxal, c'est léger et l'accroissement est très serré. Dans la croissance de l'arbre, on a la veine de printemps qui est donc très claire, et la veine d'été qui est plus serrée. Donc la veine de printemps est très... Parce qu'il pleut beaucoup, et la veine d'été, il pleut moins, donc du coup, elle est plus dure, quoi.
Ouais, c'est ça.
Bon, c'est des arbres qui poussent vraiment en altitude.
Ouais, c'est ça.
Parce que justement, ici, sur le plateau de Mille Vaches, et alentour, les épicéas, par exemple, vont avoir des veines, là, très très larges.
Plus larges, ouais.
Vraiment, vraiment trop larges, pour ce qu'on cherche. Et aussi, leur densité sera trop élevée.
Donc, c'est une question de station, d'altitude, de climat, de vraiment la station, l'emplacement de la station, mais peut-être que la sylviculture aussi, la façon dont l'homme cultive la forêt, elle joue aussi sur cette production de bois et de densité des cernes.
Oui, notamment, oui, tout à fait. C'est les forêts sont jardinées. Oui. Et notamment pour la présence de nœuds aussi. Donc les lagages des épicéas participent à la qualité du bois. Oui.
Tu es luthier, tu parles presque comme un forestier. T'as dû un peu te renseigner sur le...
Oui, c'est... en fait, le but... Enfin, moi, ce qui me touche vraiment dans ce métier, c'est la matière et la musique, bien sûr, aussi. Donc, c'est le bois et la musique qui sont reliés. Donc, voilà, c'est très, très intéressant. Après, moi, je suis pas aussi calé qu'un forestier, évidemment, mais je trouve ça toujours passionnant de savoir comment un arbre pousse et pourquoi il est comme ci ou comme ça. Et ça permet aussi d'avoir un choix plus précis et d'être plus performant et pertinent dans le choix des bois pour un instrument qui va sonner mieux.
Est-ce que, à l'instar d'un boucher traditionnel, tu as déjà travaillé avec un arbre sur pied?
Non, jamais. Non.
Est-ce que c'est un peu un rêve?
Ça viendra, oui. Les visites en forêt avec les scieurs de bois de lutherie, oui, ça viendra, c'est sûr.
C'est quelque chose qui se fait, quoi.
Oui, ça se fait, bien sûr. Ouais, pas de problème, bien sûr.
Bah, ouais. Toi, t'as déjà accompagné des luthiers dans les forêts?
On peut le voir, en fait, le luthier, quand il choisit son arbre pour des bois de résonance, il va travailler avec un marteau, il peut déjà, en frappant un peu l'arbre, enfin, déjà sur l'écorce, en fait, rien que sur l'écorce, on pourrait lire presque le caractère un peu fluide de l'arbre. Et donc, penser à son accroissement, au fait qu'il est poussé lentement, parce que ça se voit, le grain, on parle de grain, et du coup, ça peut se voir déjà un peu sur l'écorce de l'arbre, c'est-à-dire que plus l'écorce est fine, plus le bois sera fin, aura un grain fin. Et après, bah, on va, avec un marteau de forestier, taper sur l'écorce pour essayer de ressentir la résonance déjà de l'arbre. Ça peut se voir. Il y a des spécialistes, je pense à Bernard Michaud, dans le Jura, et puis après... D'autres luthiers qui travaillent aussi parce que le massif est pas loin, donc ils ont le massif à proximité.
On n'a pas parlé de l'érable, qui est quand même un sujet assez intéressant. Aussi, voilà. L'érable qui constitue donc les éclisses. Ce qu'on appelle les éclisses, c'est le contour de l'instrument. Donc c'est des fines feuilles qui sont pliées à chaud et voilà, pour donner la forme du contour de l'instrument. Et donc c'est de l'érable. Et le fond aussi est en érable, ainsi que la tête et le manche de l'instrument sont en érable. Donc là, ce qu'on... Traditionnellement, ce qu'on voit sur les instruments anciens, et donc maintenant aussi les instruments modernes, hein, on fait pareil, c'est qu'on choisit un érable qui est ondé, donc qui pousse en faisant des zigzags, hein, en gros, hein, c'est ça. Donc j'ai appris ce matin que c'était peut-être dû à la pression des lourdes branches qui écrasent un peu les fibres du bois. Et donc voilà, l'érable ondé, c'est très intéressant parce que esthétiquement, ça donne, sous le vernis, ça donne un charme fou. C'est, on obtient des variations de couleurs et un espèce de scintillement qui est vraiment unique. Et donc la plupart des violons sont, et des contrebasses et des altos et des violoncelles sont fabriqués avec ça.
C'est presque nacré parce que quand on va le faire jouer avec la lumière, eh bien en fait on a une impression de un peu presque d'hologramme. Il y a une impression de relief
qui est vraiment alors qu'on est sur une section, avec le vernis après, parce qu'on cherche avec le vernis on cherche à avoir une certaine couleur tout en étant le plus transparent possible pour pouvoir justement voir le caractère du bois et aussi le travail du luthier en dessous, voilà, du vernis.
C'est uniquement esthétique ou il y a aussi ça caractérise de manière sonore le bois.
Les ondes en particulier, c'est assez difficile à dire. J'aurais tendance à dire que ça change forcément quelque chose, mais à quantifier, à mesurer, ça va être compliqué. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que esthétiquement, oui, c'est assez incomparable l'érable ondé à un érable normal, quoi.
Un petit mot sur les archers.
Alors les archers, c'est moi je suis pas archetier, c'est un domaine vraiment à part. C'est en Pernambouc, en bois de Pernambouc. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis en crin de cheval.
Parce que Pernambouc, c'est un arbre qui pousse au Brésil, c'est ça?
Certainement, oui, c'est ça.
On ne trouve pas sur le plateau mille vaches.
Ah non plus, non, c'est un arbre. C'est vraiment particulier. Hein. Pour les archers, c'est quelque chose de... Beaucoup d'essais ont été faits avec plein d'autres matériaux, du bois et d'autres matériaux. Et on n'a rien trouvé de mieux que le Pernambouc pour faire les archers.
Dans le violon, il y a de l'ébène aussi, non, je crois bien.
Oui, voilà, c'est ça. Hein, on a une touche de violon.
C'est le manche, c'est ça?
Ouais, c'est ce qui vient, ce qu'on appelle la touche. Donc ça vient sur le manche. C'est là où on pose les doigts et on appuie sur les cordes, voilà, pour faire la note. Et c'est en ébène parce que c'est un bois très très dur, l'ébène. C'est un bois qui coule, donc une densité supérieure à 1.
On l'entend, c'est même quand tu le poses, c'est un son déjà très clair.
Voilà, c'est très très lourd. C'est très lourd là, j'ai aussi une touche de contrebasse là, c'est encore plus impressionnant. Mais il y a des solutions alternatives qui sont en recherche, des matériaux composites, parce que bon, ça reste un bois exotique, ça reste un bois d'importation, donc bon, ça devient quand même de plus en plus compliqué, l'ébène. Hein. Voilà.
Ça vient de quel pays, l'ébène?
Pays d'Afrique, Gabon, Mozambique. On a aussi Inde. Ça pousse en Inde aussi. Voilà.
Le violon, en fait, ou en tout cas les instruments du quatuor, c'est aussi des instruments de la mondialisation, finalement, d'une certaine manière.
Oui, c'est international, c'est sûr, c'est sûr. Après, on a quand même des bois sont européens la plupart du temps. Voilà, les meilleurs bois sont européens, on va dire.
Les bois, hein. C'est de la
colle. Oui, c'est collé, ouais. Alors oui, les colles, c'est un aspect aussi qu'on n'a pas abordé, mais qui est assez intéressant. On utilise des colles naturelles à base de, qui sont faites à base de d'os ou de nerfs. C'est pas vegan, mais par contre, ça a un gros avantage. Plus, ça a plusieurs avantages. Je vais commencer juste par le seul inconvénient, c'est que c'est un peu plus compliqué que les colles modernes à utiliser. Mais par contre, les avantages sont vraiment nombreux, notamment le fait que ça soit que ça colle vraiment très 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 bien le bois. Et en plus, c'est réversible. Donc ça veut dire pour parce que la restauration dans les instruments du quatuor, c'est une partie vraiment importante et donc on peut décoller un collage sans trop de difficultés, quoi. Ouais. Et tout, il sera toujours stable, il sera toujours quand c'est collé, c'est bien collé, mais avec un peu d'eau, un peu de chaleur, ça, on peut tout décoller. Donc un violon, en fait, ça se démonte comme un moteur de voiture, quoi. C'est, on peut vraiment le mettre en pièces et puis le remonter, quoi. Bon, c'est pas les choses qu'on fait pour s'amuser, hein, parce que c'est quand même assez technique, mais c'est possible. Les colles animales sont réversibles, et c'est ça qui, ça c'est vraiment un aspect très très important en restauration, mais aussi en fabrication pour prévenir les futures réparations. Voilà.
D'accord. Donc peut-être que, sans le savoir, tu peux des fois coller des planches d'un épicéa avec la colle issue de l'animal qui est passé devant l'épicéa dans la forêt. On peut imaginer ça.
Peut-être. Non, mais tout est lié. Tout est lié. C'est vrai, j'y avais jamais pensé à ça, mais tout est lié. Par exemple, on fait le vernis. C'est marrant parce que on fait le vernis avec à base de résine de d'arbres résineux et la table est en épicéa. Donc c'est vraiment, on peut faire avec de la résine d'épicéa la colophane. Oui, voilà. C'est oui, la résine de pin généralement. Le gémage, c'est le pain, mais ça peut aussi très bien se faire avec de la résine de Douglas, parce qu'il bon, il produit moins, mais ou de la résine de d'épicéa, n'importe. Ça marche aussi, quoi. Ça, c'est de la colle.
C'est de la colle.
Tu vois, ça, c'est de la colle d'os.
La colle d'os.
Ça, c'est de la colle de peau. Ça, c'est donc de la colophane.
Donc, c'est quoi? Ça ressemble à des petites miettes de résine,
ouais, parce que là, en fait, elle a été donc elle a été récoltée sur l'arbre. Donc, dans la résine qui coule de l'arbre, il y a la colophane et l'essence de térébenthine, en fait. C'est pour ça que ça la rend plastique. Donc, après, elle est distillée, en gros. Et le distillat, c'est l'essence de térébenthine. Et ce qui reste au fond de la cuve, du coup, c'est la colophane, donc comme ça. Que l'on fait fondre à chaud et à laquelle on ajoute de l'huile de lin et ça fait des chocs à pic. Non, du vernis.
Et dont on va se servir également colophane pour l'archer, pour donner une attache au crin de chevaux.
Sans colophane, l'archer sans colophane ne glisse carrément sur les cordes. Ouais. Il glisse carrément sans colophane. Et si, une fois qu'on rajoute la colophane, ça permet d'accrocher les cordes. Et de faire.
D'ailleurs, c'est peut-être les crins du cheval qui a débardé le bois.
Voilà. Probablement.
C'est un tout.
La boucle est bouclée.
C'est un écosystème.
Oula.
bah écoute, alors on y passerait mais plusieurs jours à découvrir ton atelier. À mon avis, le mieux ce serait pour ceux qui sont intéressés de venir peut-être à ta rencontre.
Ah, mais faut pas hésiter, venez voilà.
Comment on peut,
avec vos instruments voilà.
Comment on peut venir à ta rencontre?
Comment? Eh ben, vous tapez mon nom sur Google, vous aurez l'adresse et le numéro de téléphone.
Très bien. Ouais. Qu'on mettra également en description sur le site de Radio Vassivière. Voilà.
Voilà. Mathieu Mayou.
Bah écoute, merci beaucoup Mathieu. Merci Raphaël aussi pour la prise de son et les belles questions. Et puis bah à très bientôt.
Merci à vous.
d'écouter la sélection du jour sur Radio Vassivière. Restez sur nos ondes avec la suite des programmes.